Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague, une actualité dont voici les principaux titres. Élections législatives, les Tchèques de l'étranger votent dès ce jeudi. Bohuslav Sobotka participe au sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Et puis enfin, sport en football, les trois clubs tchèques font face à des défis très différents ce jeudi soir en Ligue Europa. Les élections législatives qui se tiendront en République tchèque ces vendredi et samedi débutent dès ce jeudi pour les Tchèques de l'étranger. Les bureaux de vote doivent ouvrir leurs portes dès 19h au Brésil et en Argentine, bien entendu en temps universel. Une heure plus tard, les électeurs à Cuba et sur la côte est des États-Unis et du Canada pourront se rendre eux aussi aux urnes. Ils auront la possibilité de voter jusque dans la matinée de samedi. Plus de 9000 Tchèques sont inscrits sur les listes électorales, tandis que plus de 100 bureaux de vote sont mis à disposition à l'étranger, la plupart dans les ambassades et les consulats tchèques. Les Tchèques de l'étranger votent pour la circonscription de la Bohême centrale. Rappelons qu'en République tchèque, les bureaux de vote ouvrent ce vendredi à 14h et fermeront à la même heure samedi. Rappelons également que quelques 31 partis et mouvements politiques présentent leurs candidats, soit 8 partis de plus comparés aux dernières élections législatives qui se sont tenues en octobre 2013. Nous vous invitons bien entendu à suivre nos émissions spéciales ces vendredis et samedis consacrées donc aux élections législatives. Politique toujours, le Premier ministre Bohuslav Sobotka prend part au sommet des dirigeants européens qui se tient ces jeudis et vendredis à Bruxelles. La migration, l'Europe numérique, le renforcement de la coopération dans le domaine de la défense, mais encore la situation en Corée du Nord, une coopération avec les pays d'origine des migrants, ou encore un discours de la Première ministre britannique Theresa May sur le Brexit figurent parmi les principaux thèmes au programme de cette rencontre de deux jours. Avant cela, mercredi soir, soit à la veille du Conseil européen, Bohuslav Sobotka et les autres premiers ministres des pays du groupe de Visegrad ont été réunis avec le président de la Commission européenne. Selon Jean-Claude Juncker, l'objectif de ce dîner de travail était de montrer l'intérêt de la Commission pour les opinions partagées par les pays d'Europe centrale. Culture et musique, l'Orchestre Philharmonique Tchèque entame sa 122e saison avec un concert organisé à deux reprises, ces jeudis et vendredis, dans la salle du Rodolfinum à Prague. Le prestigieux orchestre présentera sous la baguette de son chef invité, Jakub Rucha, des œuvres de Dmitri Chostakovitch et de Gustav Mahler. Le public pragois pour avoir et entendre également la soprano Marta Rechelova. Le hockeyeur Jaromír Jágr, le footballeur Petr Čech, mais aussi le chanteur Karel Gott, la patineuse de vitesse Martina Sablikova, la chanteuse Marta Kubišová, la biathlète Gabriela Kokalova ou encore la mezzo-soprano Magdalena Kožená. Ces différentes personnalités célèbres du moins en République tchèque et d'autres encore promouveront leur région natale à l'étranger. L'objectif de cette campagne, lancée par l'agence gouvernementale Czech Tourism, est d'inviter les touristes étrangers dans des endroits et régions moins connus de la République tchèque, le tout par le biais de petites vidéos de promotion accompagnées de musique classique contemporaine. Un mot de sport également et de football. Les trois clubs tchèques en lice en Ligue Europa disputent ce jeudi la troisième des six journées de la phase de groupe de la compétition, tandis que le Slavia Prague effectue un délicat déplacement sur la pelouse des Espagnols de Villarreal, avec pour enjeu la première place du groupe. Le Victoria Plzeň affronte lui le FC Lugano, lanterne rouge du championnat suisse. Eslin accueille les Danois du FC Copenhague à Olomouc. Une victoire relancerait les Moraves de Zlin donc dans la course à la qualification. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Pour peu que le brouillard veuille bien se lever, le temps reste très ensoleillé sur la majeure partie du territoire, et ce, plus particulièrement en Moravie, c'est-à-dire dans la moitié est du pays, ce vendredi, vendredi qui sera le jour de la fête des Wendelines. Les températures sont stables puisqu'elles varient entre 15 degrés à Pelzeign, c'est en Bohême de l'Ouest, et 20 degrés à Ostrava. C'est, comme vous le savez, en Moravie, Silésie, dans l'extrême est de la République tchèque. C'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Magdalena Rosinkova. Magdalena qui nous accompagne pour la suite de ce programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Prague. Merci aussi à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. À la une de l'actualité tchèque, la déclaration de l'eurocommissaire Věra Jourová, elle a brisé le silence sur les violences sexuelles. L'écrivaine canadienne Margaret Atwood a reçu cette semaine à Prague le prestigieux prix littéraire Franz Kafka. Vous l'entendrez dans cette émission. Enfin, nous vous inviterons à l'exposition du peintre František Kupka et du groupe de Puto qui se tient au musée Kampa. Très bonne écoute. En pleine affaire Weinstein, ce producteur hollywoodien accusé de viol et de harcèlement sexuel par des dizaines d'actrices aux États-Unis et en France, l'eurocommissaire tchèque Věra Jourová a brisé elle aussi le silence sur les violences sexuelles. Mercredi à Bruxelles, elle a révélé avoir été victime d'une agression sexuelle dans sa jeunesse. Le même jour, le chef de la diplomatie suédoise, Margot Wallström, dénonçait le harcèlement sexuel au plus haut niveau politique. Les deux femmes politiques ont ainsi soutenu la campagne MeToo, moi aussi, qui incite les victimes à témoigner sur les réseaux sociaux.
C'est un fait qui s'est passé il y a longtemps, qui remonte à ma jeunesse. Les témoins de cet incident n'ont rien fait, personne ne m'a aidé. Ce souvenir très sombre reste gravé dans ma mémoire. J'étais surtout choquée par la passivité des gens, comme s'ils pensaient que ce qui s'est passé était normal. La situation est très préoccupante au sein de l'Union européenne. Je me réjouis non pas de l'existence de ce problème, mais de la vague de témoignages des victimes qui élève enfin la voix.
Pour Věra Jourová, commissaire européenne en charge de la justice, de la protection des consommateurs et de l'égalité des genres, le dossier n'est pas nouveau. En novembre 2016, l'Union européenne a lancé une campagne pour combattre les violences envers les femmes. Elle s'est appuyée sur une enquête alarmante témoignant de l'étendue de la violence, notamment domestique, en Europe. D'après ce travail, dans l'Union européenne, une femme sur trois âgée de plus de 15 ans a été victime de violences physiques ou sexuelles. Plus d'une sur deux a été victime de harcèlement sexuel et une sur 20 a été violée. L'association Consent fait partie de nombreux organismes qui luttent contre le harcèlement sexuel en République tchèque à travers des campagnes sur Internet et sur les réseaux sociaux, des expositions, des conférences et workshops organisés dans des écoles, ainsi que des articles dans les médias. Cofondatrice de Consent, Johanna Nejedlova salue la démarche de la commissaire Věra Jourová.
Sa déclaration a beaucoup de poids, d'autant plus que l'égalité des genres fait partie de son portefeuille. Je crois que son soutien a une grande importance pour les femmes, de même que l'encouragement de la part de Brigitte Macron. Une campagne similaire à #MeToo a eu lieu il y a quelques années de cela en Israël. Elle a suscité un afflux de témoignages des femmes politiques, des femmes qui s'engagent au sein de l'armée israélienne, des présentatrices de télévision aussi. Il est important de se rendre compte que toutes les couches sociales sont concernées par le phénomène. C'est un débat dont nos sociétés ont besoin.
funkci tím, že se opravdu ukáže, že to prorůstá všema vrstvama společnosti.
En République tchèque aussi, les violences à caractère sexuel sont entourées de nombreux mythes et préjugés. Et tout comme dans les autres pays européens, elles concernent un nombre non négligeable de la population. Une femme tchèque sur 10 a subi un viol, mais seulement 8% des femmes déposent une plainte à la police, qui, quant à elle, n'identifie que 2% des agresseurs, selon les données communiquées par l'association Consent. Dans ce contexte, des hashtags comme MeToo sur Facebook ou Balance ton porc, devenus ces derniers jours virales sur le Twitter français, ces campagnes jouent un rôle important. Des témoignages affluent également sur les réseaux sociaux tchèques. Johanna Nejedlova.
Certaines femmes écrivent juste MeToo, d'autres racontent leur histoire. Ce qui est important, c'est que les femmes évoquent toutes sortes d'expériences, aussi des formes considérées comme moins graves de harcèlement sexuel, comme le fait que quelqu'un se soit masturbé devant elles dans la rue, les a pelotées dans un moyen de transport ou alors quand un proche les a harcelées au cours d'une fête familiale. Souvent, les femmes adoptent différentes stratégies pour éviter ce genre de situation, mais cela les limite dans leur vie quotidienne.
Pour élargir le débat dans la société, Johanna Nejedlova incite les hommes, eux aussi, à se confier et à faire part de leur expérience du harcèlement sexuel. Margaret Atwood a reçu le prestigieux prix littéraire international Franz Kafka qui lui avait été attribué en mai dernier à l'occasion d'une cérémonie organisée ce mercredi à la mairie de la vieille ville à Prague. La célèbre romancière et essayiste canadienne est connue pour des œuvres comme Le dernier homme, Le tueur aveugle et surtout La servante écarlate dont la récente adaptation en série a connu le succès public et critique. Radio Prague l'a rencontrée.
I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake.
Paru en 1987, La servante écarlate décrit un monde semblable au nôtre, peut-être dans un futur proche, où les êtres humains sont presque tous infertiles. Aux États-Unis, une secte de fous de Dieu prend le pouvoir et impose une nouvelle division de la société, où les femmes restées fécondes sont asservies pour être employées comme domestiques et assurer une fonction reproductive. June est l'une de ces femmes et l'on suit son histoire. Dans la série adaptée du livre The Handmaid's Tale, La servante écarlate, diffusée cette année, ce personnage est remarquablement interprété par Elizabeth Moss. Le roman rencontre ainsi un succès renaissant une vingtaine d'années après sa parution. Margaret Atwood a une explication.
Cela s'explique parce que toutes ces personnes qui parlaient de retirer des droits aux femmes dans les années 1980 ont maintenant le pouvoir d'agir de la sorte, et elles agissent de la sorte.
In the 80s, when I was writing the book, now have the power to do it, and they're doing it.
Même si elle se défend d'être une écrivaine féministe, car elle ne travaille pas dans le cadre du mouvement féministe, les thèmes du droit des femmes et de la condition féminine dans une société patriarcale parcourent toute son œuvre depuis l'apparition de son premier roman, La femme comestible. Une œuvre qui vaut donc aujourd'hui à la romancière de recevoir le prix Franz Kafka, remis à Prague par la société Franz Kafka depuis le début du millénaire. Ce n'est peut-être pas un hasard, puisque Margaret Atwood a un lien un peu particulier avec le légendaire auteur du procès.
J'ai lu Kafka quand j'étais adolescente et je pense que tout ce que vous lisez quand vous avez cet âge a une influence spéciale sur vous. À cette époque, j'ai également lu des romans d'horreur de la fin du 19e siècle comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou bien Dracula, ainsi que des maîtres de l'absurde dans l'immédiate après-guerre tels que Beckett et Ionesco. Et Kafka est vraiment une sorte de pont entre tout cela.
UNESCO and Kafka is really a sort of bridge.
Autre sujet visiblement récurrent dans le travail de Margaret Atwood, les romans d'anticipation où l'humanité semble destinée à une extinction très prochaine, souvent en raison d'une baisse de la fertilité de notre espèce. C'est un thème qu'on retrouve dans Le Dernier Homme, livre qui a également fait l'objet d'une adaptation réussie sous la forme d'un livre. De là à dire que Margaret Atwood est pessimiste, il y a un pas à ne pas franchir.
Well, of course. I mean, all writers are optimistic, or they wouldn't bother writing.
Bien sûr, je suis optimiste. Tous les écrivains le sont, sinon ils ne s'embêteraient pas à écrire. Si vous pensez que l'espèce humaine est condamnée et que personne ne lit vos trucs, cela vous est égal. Être optimiste, qu'est-ce que c'est? Tout va être merveilleux? Non. L'espèce humaine évitera-t-elle de se détruire en acidifiant tellement les océans qu'ils cesseront de rejeter de l'oxygène? Espérons que non. Jusqu'à où cela peut aller mal? C'est le pire, donc j'espère qu'on l'évitera. Mais en fait, si j'étais une plante, ces choses-là ne m'inquiéteraient pas trop.
Convenons ensemble que Margaret Atwood n'est pas une plante, mais l'une des écrivaines les plus talentueuses de sa génération, et l'obtention de ce prix Franz Kafka le montre assez.
Pendant plus de 50 ans, František Kupka a vécu rue Lemaître à Puteaux. C'est dans cette commune de la banlieue parisienne que le peintre tchèque et père de l'art abstrait a fondé en 1911, avec ses voisins, les frères Duchamp, le groupe de Puteaux. Les activités de ce regroupement d'artistes et de critiques d'art liés au cubisme font actuellement l'objet d'une exposition intitulée Atelierova, Sousedstvi, voisin dans l'art en français, préparée en coopération avec le Centre Pompidou. L'exposition se tient jusqu'en janvier prochain au musée Kampa dans le centre de Prague. Alžběta Rušková nous en dit plus.
C'est avant tout l'histoire d'une amitié peu commune. En 1892, František Kupka, originaire d'Opočno en Bohême de l'Est, quitte son pays natal à l'âge de 21 ans pour s'installer tout d'abord à Vienne, puis à compter de 1896 à Paris, et plus précisément à Montmartre, le centre artistique de l'époque. L'essentiel de sa vie est toutefois lié à une autre adresse, celle de la maison située au 7 rue Lemaître à Puteaux, où le peintre se fixe en 1906 pour y rester jusqu'à sa mort en 1957. L'adresse devient mondialement célèbre dans les années 1911 et 1912 grâce aux réunions régulières du groupe de Puteaux. Brigitte Léal du Centre Pompidou, co-organisateur de l'exposition, évoque plus en détail ce mouvement artistique.
Le groupe de Puteaux, il est lié à la ville de Puteaux, à côté de Paris, au bord de la Seine. Et c'est là où les frères Duchamp, d'abord Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, ont acheté un petit pavillon qui se trouvait dans une rue à côté, vraiment mitoyen, du pavillon où s'était installé Kupka. Ils avaient même un jardin en commun. Et ils se sont liés d'une très très grande, d'une très profonde amitié. Et nous avons des témoignages de documents photographiques où on les voit tous ensemble dans le jardin. Et bien sûr, à côté des frères Duchamp, il y avait aussi Marcel Duchamp, qui lui habitait à Neuilly, c'est-à-dire juste de l'autre côté de la Seine, et qui venait les voir. Et donc petit à petit, ce groupe intellectuel, artiste, qui avaient leurs ateliers sur place, mais qui formaient une sorte de petit phalanstère, grossi au fil des années.
De nombreux peintres, sculpteurs et critiques d'art comme Francis Picabia, Roger de la Fresnay, Robert Delaunay, Fernand Léger, Henri Le Fauconnier, Georges Ribemont, Dessaigne, Marthe Donat ou Camille Renault, mais aussi des scientifiques, des mathématiciens, des écrivains ou le poète Guillaume Apollinaire font partie du groupe de Puteaux, un nom que ses membres adoptent pour se distinguer de la définition plus étroite du cubisme développée par Pablo Picasso et Georges Braque. Ces artistes qui s'efforcent de relier l'art et la science et rebaptisent plus tard le groupe du nom de section d'or, faisant ainsi référence aux découvertes autour du nombre d'or, ne sont en effet pas partisans des mouvements concrets. Il cherche leur inspiration dans différents principes de l'art moderne, tels que l'orphisme, le futurisme, le cubofuturisme ou encore le rayonnisme, qu'il modifie à leur manière. Brigitte Lalle.
Il y a eu aussi d'autres rencontres avec des cubistes comme Glaise et Metzinger, qui n'étaient pas les cubistes du clan Canneveller, qui étaient des cubistes qui avaient une vision un peu philosophique, en quelque sorte, de l'art, hanté aussi par des recherches liées à l'occultisme, par exemple. Enfin, qu'il y avait une ambition spirituelle et philosophique pour le cubisme. Donc, ce petit groupe s'est mis à former le groupe de Puteaux, qui était assez informel, qui était donc lié à une histoire d'amitié et puis de proximité intellectuelle.
Ce groupe d'artistes qui a considérablement influencé l'évolution de l'art abstrait est actuellement présenté à Prague à travers une exposition organisée conjointement par le Centre Pompidou et le musée Campa et dont Brigitte Leal est l'auteur. Membre, lui, du conseil d'administration du musée Campa, Jiří Pospíšil précise.
Tato výstava byla otevřena.
Cette exposition a été ouverte pour rendre hommage à la fondatrice du musée Campa, Meda Mladková, une dame qui a fêté ses 98 ans le 8 septembre dernier, le jour de l'inauguration de l'exposition. Meda Mladková a découvert František Kupka à Paris dans les années 50. Elle a ensuite consacré toute sa vie à la présentation et à la promotion de son œuvre. Notre musée, qui gère sa collection des œuvres de František Kupka, organise donc différentes expositions sur cet artiste, mais aussi sur le milieu dans lequel il a vécu.
Sur deux étages, l'exposition présente une trentaine d'œuvres, aussi bien des tableaux que des sculptures, de František Kupka, des frères Duchamp et de leurs collègues du groupe de Puteaux. Différentes photos d'artistes et textes d'accompagnement expliquant le contexte de création complètent cette mosaïque. Mais pourquoi donc le Centre Pompidou a-t-il préparé une exposition sur mesure pour le musée Campa, Brigitte Lalle?
Le Centre Pompidou a de bonnes relations avec le musée Campa, qui va participer aussi à notre exposition consacrée à Kupka au Grand Palais, et avec des prêts absolument magnifiques de cette collection constituée par Mneda Mladek. Et nous avons prolongé cette collaboration en prêtant nous-mêmes un beau fond de nos œuvres liées au groupe de Puteaux, enrichies aussi par des prêts privés qui nous permettent en fait de présenter des œuvres à la fois du sculpteur Raymond Duchamp-Lyon et notamment le Cheval Majeur, qui est un des chefs-d'œuvre de la sculpture du XXe siècle, et puis une sculpture comme Maggie aussi, qui est une des œuvres les plus fortes de l'art du XXe siècle, et puis des dessins, des photos, des œuvres de Kupka aussi, la maquette très exceptionnelle de la maison cubiste, présentée au salon de 1912. Donc tous ces éléments, ces pièces, cette documentation donnent une idée, je crois, assez juste de ce qu'a été l'école de Puteaux dans le premier quart du XXe siècle, ainsi que des liens de Kupka avec les frères Duchamp.
Unique en son genre, c'est ainsi que le musée Campa présente l'exposition Voisin dans l'art, qui est à découvrir sur la presqu'île éponyme jusqu'au 9 janvier prochain et dont le thème était inédit jusqu'à présent dans le pays. Jiří Pospíšil explique.
Les auteurs présentés à l'exposition n'ont jamais été exposés en République tchèque. Nous montrons comment ce groupe de voisins et d'amis de František Kupka, de Puteaux, s'influençaient mutuellement et comment certains aspects de leur création se ressemblent. Aucune exposition de ce type n'a jamais été présentée auparavant en République tchèque. Il s'agit là d'un autre angle de l'exploration de l'œuvre de František Kupka.
Nebyla. Je to další aspekt zkoumání díla Františka Kupky.
En juin dernier, 60 ans précisément se sont écoulés depuis la mort de ce peintre, graphiste et illustrateur tchèque parmi les plus importants du XXe siècle. À cette occasion, sa ville natale d'Opočno a dévoilé sur la place Kupka un monument avec un buste de l'artiste. Une copie du monument, fruit du travail du sculpteur tchèque Marian Karel, a été offerte à la commune de Puto également.
Avec cette exposition sur František Kupka que s'achève le programme de Radio Prague en français. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de suivre l'actualité tchèque au www.radio.cz/fr. N'oubliez pas non plus de nous contacter sur Facebook et sur Twitter. Portez-vous bien, à demain.